sur l'info, le journal
avec MCM,
présenté par Antoine Samoyo.
Bonjour Antoine, et on commence par les titres que vous développerez aujourd'hui.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Nouveau rebondissement ce matin à l'ouverture de la 8e séance de la session budgétaire de l'Assemblée. L'élu de Bora Bora, Rudolf Jordan, ne sera pas la 28e voix du Tapura. Il a annoncé ce matin qu'il restait finalement au Tahuer A. Le groupe Tapura enregistre néanmoins 2 sièges supplémentaires avec les retours des ex-ministres René Temeharo et Frédéric Rivetta à l'Assemblée. On fait le point sur la recomposition de l'hémicycle dans ce journal. Christian Vernaudon est le nouveau conseiller polynésien au CESE à Paris. Notre correspondante l'a rencontré mardi. Vous l'entendrez, il prône une consultation large et régulière pour porter la voix de la Polynésie au Palais d'Iéna. Enfin, nous reviendrons ce midi sur le rapport du collectif TTIVEVO consacré aux sans-domicile en Polynésie. Jean-Bernard Rouche est notre invité. Il est substitut général près la cour d'appel chargé de la protection de l'enfance. Il nous parlera particulièrement des mineurs en situation d'errance. À tout de suite.
Et on démarre avec l'actualité politique et ce nouveau revirement de situation pour le Tapura.
Après avoir signé mardi son adhésion au groupe d'Edouard Fritsch, l'élu Tahuer A Rudolf Jordan s'est rétracté ce matin. Il reste au Tahuer A. L'élu n'a d'ailleurs pas assisté à la séance de ce matin et donné procuration à sa collègue Patricia Amaru. Rudolf Jordan ne sera donc pas la 28e voix du Tapura. Il affirme qu'il était parti parce qu'il n'était plus en position éligible sur la liste Tahuer A au territorial, mais affirme également que ça ne va pas non plus au Tapura. Écoutez-le au micro de Vaïté Ourari Pambrin, c'est savoureux.
Quelque chose dans ma tête qui bourdonne pour les élections 2018. Je suis tombé dans le piège de quelqu'un qui m'a dit je suis sur la 7e place, ainsi de suite, et ça s'est confirmé que c'est pas du tout ça. C'est au moins à la tête de liste. Là, ça m'a fait encore revenir encore en arrière.
Là, je viens de re-signer mon retour au Tahuer A.
Donc, tu es parti, tu es revenu?
Je suis jamais parti. J'ai fait un tour, j'ai regardé. Il y a plein de choses qui se passent là-bas.
C'est-à-dire?
Ça va pas.
Comme quoi?
Tu vas voir après.
Mais voilà. Qu'est-ce qui t'a décidé de revenir à la maison finalement?
Ce matin, mamie Patricia m'a appelé tôt ce matin à 5h. Si tu vas là-bas, t'as écouté la voix des autres. Si tu restes ici, t'as écouté la voix de ton cœur.
Et pourtant, tu avais déposé ton adhésion.
J'avais déposé. Quand je regardais le côté, c'est pas tellement aussi.
Enfin, il a fallu que tu voyes de
voilà,
tes propres.
Parce que je suis comme Saint Thomas, je vais voir de mes yeux et toucher.
Donc, qu'est-ce qui t'a pas plu finalement au sein du tap?
Je dirais pas l'attitude du président. Hier, on était à Paris, hein, et certaines élus devaient former un deuxième groupe au sein du Tapura. Là, ça m'a pas du tout plu. L'Edouard n'est pas en courant. Il faut qu'il ouvre ses yeux, regarder au sein de ta majorité. Il y a certaines personnes n'est pas fiable. Voilà. Et moi, je ne veux pas rentrer dans le jeu. C'est pour ça que je suis revenu.
Et là, tu es revenu pour de bon, Tahuer A?
Pour de bon. Enid Meham a pour de bon.
Et la présidente du groupe Tahuer A à l'Assemblée, Sylvana Pouhettini, prend cette rétractation à la rigolade. Elle dément les propos de Rudolf Jordan évoquant une dissension au sein du Tapura.
À la rigolade, qu'est-ce que tu veux que je dise? S'il veut revenir, il sera le bienvenu.
Vous comprenez son retour au Tahuer A?
Je cherche même pas à comprendre. Hein. On n'a pas fait de pression. Hein. On était à Bourin ensemble. Tous les élus sont les bienvenus. Hein. Tant qu'ils sont là pour soutenir le gouvernement et les actions, pas pour leur propre place aux prochaines élections, ils sont les bienvenus. Hein. Parce que Jordan, il est parti du Tahuer A parce qu'on lui a proposé le 7e place. Et aujourd'hui, peut-être qu'on lui a proposé 3e place, j'en sais rien.
Jordan parle d'une dissension au niveau du Tapura.
Mais quelle dissension? Il n'a pas adhéré, qu'il parle de nous. Pour voir chez eux la dissension. Demande-lui pourquoi il est venu.
Oui, mais il dit que certains élus, et notamment ceux de PAEA, veulent faire un autre groupe.
Quel groupe? Ah non, je ne suis pas au courant de ça. Un groupe de quoi?
Un autre groupe au sein du Tapura.
Non, pas du tout. Je découvre comme toi, là. Et c'est lui qui vient rapporter des trucs, alors là... Moi, je suis étonnée que Jordan te parle d'une dissension chez nous. Attends, il faut voir la dissension chez eux.
Sinon, quand est-ce que Tapura et ATP vont faire un seul?
Ah, ça, tu le verras en temps voulu, hein? Chaque chose se fera en temps et en heure.
En bref, l'actualité est également judiciaire ce matin avec les demandes d'indemnisation des travailleurs du nucléaire.
Deux anciens salariés du commissariat à l'énergie atomique affectés sur l'atoll de Mururoa se défendent ce matin devant la cour d'appel de Papeete. Petite particularité, ce n'est pas sur le plan du droit administratif que les deux anciens travailleurs du nucléaire ont saisi la justice, mais c'est sur le plan du droit du travail que les deux hommes se défendent. L'association Mururoa Atoll est présente à l'audience par solidarité, je cite, les avocats des deux travailleurs du nucléaire et de l'État doivent plaider ce midi. Plus d'informations à venir sur radio1.pf.
On poursuit avec le nouveau conseiller au CESE, Christian Bernaudon, qui s'est exprimé pour Radio 1 sur sa nomination.
Nous vous révélions ce week-end la nomination de Christian Bernaudon au Conseil économique, social et environnemental, un poste que l'ancien PDG d'Air Tahiti et d'Air Tahiti Nui avait déjà occupé de 94 à 99. Actuellement à Paris, Christian Bernaudon est revenu sur sa nomination au micro de notre correspondante Radija Benouataf.
J'ai siégé au Palais d'Iéna de 94 à 99. Et donc j'en ai gardé un très bon souvenir, et notamment à l'époque c'était l'application du pacte de progrès et qui était le sujet. J'aspire à retrouver en fait le même contexte de travail pour cette mandature, à savoir pouvoir en Polynésie dialoguer avec toutes les parties, tous les partenaires sociaux, les forces de la société civile, les forces politiques, le gouvernement, les parlementaires, pour définir les gros sujets sur lesquels tous les Polynésiens se mettent d'accord. Et ensuite, venir ici sur Paris pour défendre notre cause en bonne symbiose avec les autres parlementaires polynésiens.
Et si ce poste convoité est souvent perçu comme une planque par l'opinion publique, Christian Bernaudon se défend, lui, d'avoir hérité d'un cadeau.
Je pense que une des raisons peut-être qui a conduit à ce que je sois choisi parmi les différents candidats, c'est peut-être le contenu de ma proposition de méthode de travail, à savoir donc cet exercice permanent d'aller-retour entre la consultation de tout le monde en Polynésie avant de venir ici au niveau national défendre des dossiers, par cette méthode de consultation la plus large pour préparer les dossiers qu'on veut défendre et venir les défendre ici.
Vous évoquez un travail de fond, mais l'opinion publique, elle pense que c'est une planque.
Oui, ben c'est comme ça que les médias en fait présentent. Mais bon, ça c'est le fait du temps. Après, c'est à nous aussi à pouvoir mieux communiquer sur le travail qui est fait, sur les rapports qui sont faits, sur les idées qui sont débattues. Mais pour cela, on a besoin de temps. Parce que tous les sujets sont complexes et aucun sujet ne peut être traité en 3 minutes sur un plateau en disant « Bon, vous avez 3 minutes pour nous expliquer le système de protection sociale. » C'est pas possible.
Christian Bernaudon était d'ailleurs à Paris avec la délégation du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie.
Et à quelques jours de l'ouverture du congrès des maires à Paris, plusieurs élus du syndicat pour la promotion des communes, le SPC, ont plaidé pour la cause des maires de Polynésie auprès de leurs homologues de métropole, du gouvernement ou encore du Sénat. On écoute le reportage de notre correspondante à Paris, Radija Benouataf.
Ils veulent une réforme du Code général des collectivités territoriales afin qu'il s'adapte aux spécificités polynésiennes. Ils veulent qu'une solution soit trouvée au problème de l'élection des maires délégués et des communes associées. Ils veulent également un transfert des compétences du pays aux communes dans le cadre du social ou pour les transports maritimes. Enfin, les maires du Fénois voudraient que soit mis fin à une criante injustice. On écoute Cyril Tétouanoui, président du SCP.
Les communes polynésiennes ne bénéficient pas des mêmes services que bénéficient les communes de métropole. L'exemple, ici en métropole, il y a un logiciel Helios où, en tant que maire, tu connais combien il te reste comme trésorerie, combien tu as encaissé, combien il te reste des impayés, et les communes polynésiennes ne bénéficient pas de ces nouveaux logiciels. Et on aimerait bien que le service du trésor au niveau de la Polynésie bénéficie aussi de ces logiciels performants, hein, qui vont nous aider parce qu'on fait la gestion des données publiques. On aimerait bien connaître jour par jour où on va. Voilà.
Une délégation du syndicat des communes de Polynésie française est donc venue plaider sa cause auprès de parlementaires métropolitains. Le planning est chargé. Lundi, ils ont rencontré François Baroin, président de l'Association des maires de France. Ce mardi, ils ont rencontré Philippe Basse, le président de la commission des lois du Sénat, et Michel Magras, président de la délégation à l'Outre-mer au Palais du Luxembourg. Ce dernier a notamment annoncé la venue de membres de la délégation à l'Outre-mer à Tahiti du 18 février au 6 mars 2016 pour un rapport sur le foncier.
C'est une étude qui se déroule sur 3 années. Actuellement, pour la 2e année, nous travaillons davantage sur la problématique de la superposition du droit coutumier avec le droit national français, le code civil, et les difficultés que cela peut générer. Et l'idée, c'est que nous sommes allés récemment à Mayotte, et nous viendrons, si tout se passe bien, dans tout le Pacifique, à la fin du mois de février 2016, et nous devrions produire un rapport en juin. Donc on est dans une bonne démarche. Cette démarche portera ses fruits, j'en suis absolument convaincu. En tout cas, on voit nettement à quel point nos collègues hexagonaux ou métropolitains s'intéressent de plus en plus et comprennent de mieux en mieux les réalités qui sont les nôtres.
Au programme des prochains rendez-vous du SCP, Marc Vizy, le conseiller outre-mer de François Hollande, et Georges Pollangin, la ministre des Outre-mer, un bon tour d'échauffement avant le congrès des maires de France qui aura lieu du 16 au 19 novembre à Paris. Khadija Benouattaf pour Radio 1.
À midi passé de 11 minutes, nous allons faire une courte pause dans ce journal, à suite du développement de l'actu dans un instant.
Radio 1, premier sur l'info.
On reprend avec les conséquences des précipitations survenues mardi sur la côte est de Tahiti.
La commune de Hitiotera a été surprise par de brusques pluies très intenses mardi après-midi. Météo France a placé Tahiti en vigilance jaune. Des inondations qui ont provoqué une montée des eaux de la rivière de Mahaina. 7 habitations ont été inondées, leurs occupants ont été relogés dans leurs familles. Dans l'après-midi également, 8 jeunes randonneurs ont été bloqués par la crue de la Vaioa au niveau du PK 37.5 à Hitia. Des randonneurs sont restés en contact avec la gendarmerie et la protection civile par SMS. Le haut commissariat a finalement décidé d'engager l'hélicoptère Dauphin pour les secourir. Tous ont donc été élitreuillés entre 17 et 18 heures. Et ce n'est pas tout. Sachez également que 9 ouvriers d'une société d'extraction se sont également retrouvés bloqués par la crue de la Mahaina cette fois-ci. Eux ont passé la nuit à l'intérieur de leur véhicule. Mercredi matin, un moutoi a tenté de les rejoindre à la nage, mais sans succès. Les ouvriers ont finalement pu traverser la rivière vers 9h30 avec la drague de leur société. Tous sont en bonne santé.
On termine ce journal avec notre invité pour parler des mineurs en situation d'errance.
Le collectif Tetei Vevo a rendu la semaine dernière un rapport de près de 80 pages sur la situation des sans-domicile en Polynésie. Un rapport qui dresse un constat mais qui propose également plusieurs préconisations. Et dans ce constat, il est établi que 400 personnes sont en situation d'errance en Polynésie, principalement à Papeete, 200 de façon permanente et 200 de façon transitoire. Et plus précisément, on dénombre environ 20 mineurs parmi ces SDF, une population particulièrement sensible. Alors je reçois ce midi le substitut général près la cour d'appel Jean-Bernard Rouche. Monsieur Rouche, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes magistrat en charge de la protection de l'enfance et membre de ce collectif Tetei Vevo. On le disait, on compte une 20aine de personnes mineures parmi ces SDF. C'est principalement sur Papeete, c'est cela hein?
En réalité, oui, c'est le grand Papeete, c'est-à-dire la centre-ville et puis toutes les communes qui sont autour.
Ce sont des personnes qui ont été référencées, comptabilisées quasiment un par un, puisqu'on a des chiffres qui sont de 20 à 30, c'est ça hein?
Ces chiffres ressortent du travail des personnes sur le terrain.
Alors, il existe pourtant des structures d'accueil pour les mineurs, mais vraisemblablement, elles ne sont pas à la hauteur des capacités qui sont demandées.
Nous sommes confrontés à une difficulté sur le territoire, c'est effectivement le manque de structures en nombre suffisant.
Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui comme structure d'accueil pour ces mineurs en situation d'errance?
Alors, pour les mineurs en général qui sont en difficulté, il y a le foyer d'accueil éducatif qui est géré par l'association Téparé, qui offre 6 places, 4 me semble-t-il pour les garçons et 2 pour les filles, avec une possibilité de rajouter 1 ou 2 éléments supplémentaires. Mais pour le moment, et quelques familles d'accueil, genre 4 sur la grande île, et un certain nombre de familles d'accueil sur les archipels.
Qui sont dans les îles, vous me disiez environ un peu plus entre 10 et 20 familles d'accueil, hein, mais c'est surtout ça. Dans les îles.
C'est ça.
La problématique des mineurs délinquants, ça vous y êtes confronté, et vous me parliez avant cette émission du manque de structures véritablement adaptées aux mineurs délinquants en Polynésie.
Oui, parce que si l'on compare la Polynésie avec les structures qui existent en métropole, il existe un éventail suffisant qui permet d'adapter la situation du mineur délinquant de son passage devant le juge jusqu'à son incarcération s'il commet des actes particulièrement graves. Et en Polynésie, il n'y a pas, par exemple, de centre éducatif fermé ou de centre éducatif renforcé, et il n'y a même pas de quartier mineur à Nautania. Alors il faut savoir qu'un quartier mineur, c'est quelque chose de très particulier parce que ça n'est pas que de l'informement, c'est aussi de l'éducatif. Et cela, alors l'éducatif tente à être développé, mais dans une structure que l'on connaît et qui est peut-être mal adaptée à la chose.
Alors, on peut le signaler, dans la future prison de Papiari, on aura cette fois-ci un quartier mineur. Hein.
Alors, le quartier mineur ne sera pas installé dans la prison de Papiari, il sera installé dans la prison de Nautania qui va être réhabilitée en partie, d'après ce que nous savons, et il y aura à la fois un quartier mineur qui sera adapté et un quartier femme.
Alors on le disait, ce rapport du collectif Tetaivevo, il comprend donc un constat sur la situation des SDF en Polynésie, mais aussi des recommandations. Quelles sont les principales recommandations qui sont faites justement pour cette situation des mineurs sans domicile en Polynésie à Papeete?
Alors la prise en compte des mineurs est une prise en compte récente de la situation des mineurs en difficulté, parce que précédemment cette situation n'était pas envisagée. Puisque l'on partait du principe que la famille étant omniprésente en Polynésie, c'était elle qui prenait en compte les mineurs. Actuellement, on constate qu'effectivement, un certain nombre de mineurs sont en difficulté parce qu'ils sont, par exemple, en décrochage scolaire. Ils sont aussi en fugue, quelquefois, des familles. À partir de ce moment-là, il est nécessaire d'avoir des structures qui permettent leur accueil et leur réintégration au sein de la société. Ces structures doivent être mises en place. Mais à partir du moment où le constat est fait, tant par les politiques du pays que par l'État, par le biais du Haut Commissariat et l'administration judiciaire, il n'y a à mon sens aucune difficulté pour que ces accueils se développent. C'est le constat qui a été fait par le collectif auquel j'ai participé et aussi les propositions qui ont été faites.
Et votre volonté, vous l'avez expliqué notamment, et c'est ce qui ressort de ce rapport, c'est un portage politique fort justement pour ces questions de gestion de toute la population de sans domicile.
Il est absolument nécessaire d'intégrer deux choses. L'État est présent au quotidien, mais il est absolument aussi nécessaire que les représentants politiques, tant du président au maire, que ceux-ci prennent en compte la situation à chacun de leurs niveaux, c'est-à-dire au niveau du pays, mais aussi au niveau des communes. Et ça a été le but qui a fait que le collectif auquel j'ai participé a à la fois donné son rapport au commissaire, mais aussi au président Fritsch, afin que les deux intéressés du pays soient informés de cette situation.